Et on poursuit avec un deuxième sujet. Avec toi, Valentin, tu reçois donc Sarah Zanaz à l'occasion de la semaine de la pensée antispéciste.
Et oui, cette semaine a lieu la semaine de pensée antispéciste dans différents lieux de Rennes, organisée par Sentience Rennes. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Sarah Zanaz, traductrice et doctorante en philosophie. Bonjour Sarah.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ben, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui pour parler ensemble de cette semaine thématique. Donc pour commencer, comment s'est passée votre participation à cette semaine? Comment ça se fait que vous avez donné une conférence lundi?
Alors, j'ai été contactée il y a plusieurs mois par l'équipe d'organisation de Sentience Rennes. Alors, c'était Victor Durand-Lepeuche qui m'avait contactée. Ils avaient besoin d'une conférence un peu introductive sur ce que c'est que le spécisme, comment est-ce qu'il s'articule, comment est-ce qu'il se défend, pour qu'on parte un peu sur des bonnes bases pour la semaine, puisque c'était que des événements qui avaient un rapport avec le spécisme ou l'antispécisme. Et oui, donc on m'avait contactée à cette occasion-là, comme je travaille sur cette question aussi. Et voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres questions.
C'est très bien. Et du coup, donc, lundi, vous avez tenu une conférence intitulée « Que répondre aux spécistes ? Petit guide de contre-attaque à l'Amphiel 3 sur le campus de Rennes 2 ». Donc justement, pour commencer, pour planter un peu le décor, pour celles qui ne connaîtraient pas cette notion de spécisme, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu ?
Oui. Alors, le spécisme, donc ce que j'ai montré un petit peu dans ma présentation, c'est qu'il y a plusieurs manières de le comprendre. Mais pour être très simple, on comprend souvent le spécisme comme une discrimination arbitraire qui est fondée sur l'espèce. Donc c'est un mot qui a été fondé en 1970 sur une analogie entre le spécisme, le sexisme et le racisme. Donc le racisme, c'est une discrimination arbitraire fondée sur, entre gros guillemets, la race, parce qu'on sait que les races n'existent pas. Le sexisme, c'est une discrimination arbitraire qui est fondée sur le sexe ou le genre. Et le spécisme, c'est une discrimination arbitraire qui est fondée sur l'espèce, l'appartenance à l'espèce.
Et justement, le fond de cette pensée spéciste, donc, il se base beaucoup sur l'appartenance à l'espèce, et du coup, qui en découle des discriminations qui, selon les spécistes, seraient logiques. Est-ce que c'est justement cette idée d'appartenance d'espèce qui pose problème déjà de base, directement ?
Est-ce que les espèces existent vraiment ? C'est la question.
En fait, au niveau des spécistes, ils se basent sur cette appartenance d'espèces. Et est-ce que du coup les espèces existent? Et est-ce que ça en découle que c'est un droit après de les discriminer selon l'espèce humaine?
Ah oui, si c'est un critère de considération pertinent. Alors, les espèces existent. Je pense que c'est une petite parenthèse que je vais faire quand même, parce qu'on reproche souvent aux antispécistes de croire que les espèces n'existent pas. C'est un peu un malentendu. On sait que les espèces existent bel et bien, et on sait qu'il y a des différences entre les différentes espèces. C'est pour ça que l'analogie avec le racisme et le sexisme a ses limites. On l'utilise pour comprendre comment le mot de spécisme a été construit, mais on sait très bien que, par exemple, il y a des différences entre les espèces. Une limace n'est pas égale à un mouton qui n'est pas égale à un être humain. On sait que les différences existent entre les espèces, on sait que les espèces existent, alors qu'on sait pertinemment que les races n'existent pas et qu'il n'y a aucune différence entre, par exemple, une race entre gros guillemets, alors j'utilise vraiment le mot juste pour qu'on comprenne, et une autre. On sait que c'est vraiment, il n'y a pas de différence à faire là. Donc c'est une petite parenthèse. Et sinon, sur la deuxième question, qui est sur la pertinence de ce critère de considération, en fait, les antispécistes, et puis plus généralement les animalistes, on pourra peut-être un peu revenir sur cette distinction. Pensons que l'appartenance à l'espèce n'est pas un critère de considération morale pertinent, puisque, par exemple, il n'y a rien de magique dans le fait d'être un être humain qui nous permette de dominer ou d'opprimer les autres types d'espèces. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que l'être humain serait si spécial pour lui permettre de traiter comme ça les autres espèces. Quand on pose cette question, on arrive souvent sur d'autres types d'arguments. Par exemple, l'être humain mérite de s'ériger en supérieur par rapport aux autres espèces parce qu'il est plus intelligent, par exemple.
C'est là où je voulais en venir directement. C'est un des arguments des spécistes, justement, c'est de se baser sur les différences de capacité mentale entre les animaux et les humains.
Oui,
et du coup, est-ce que c'est un argument valable et comment y répondre ?
Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cet argument. Premièrement, on peut se poser la question de la pertinence d'une phrase qui consisterait à dire « plus l'intelligence de quelqu'un est grande, plus cette personne mérite le respect ». Je pense que quand on formule les choses comme ça, on a tendance à comprendre que, bon, par exemple, Marie Curie, qui a été une personne très très intelligente, est-ce que sa souffrance et plus à prendre en compte que la souffrance de quelqu'un qui serait peut-être un peu moins intelligent. Est-ce que l'intelligence de quelqu'un lui permet de souffrir plus ? Parce que finalement, quand on s'intéresse à la question dont on traite les autres en général, humains ou non humains, la question c'est de savoir si on peut ou non leur faire du mal ou les impacter négativement avec nos actions. Est-ce que le fait qu'une personne soit particulièrement intelligente la rend plus sensible à nos mauvais traitements, par exemple. Est-ce que, pour reprendre l'exemple de Marie Curie, est-ce que parce qu'elle est très intelligente, elle souffre plus de nos traitements que quelqu'un qui serait moins intelligent ? C'est pour ça qu'on prend le critère de la sentience comme un critère pertinent de considération morale, puisque c'est ça qui est important au moment de savoir comment est-ce qu'on doit traiter quelqu'un. C'est sa manière d'être... c'est sa possibilité d'être affecté positivement ou négativement par nos actions. L'intelligence, ça ne change pas grand-chose, en fait. Si je te fais mal, que tu sois très intelligent ou non, tu vas ressentir la même douleur. Ou que tu sois capable d'un langage ou non, tu vas ressentir la même douleur. Par contre, ce qui importe vraiment, c'est ta capacité à ressentir cette douleur-là. Et ça, c'est la sentience, c'est ce qu'on appelle la sentience, c'est-à-dire la capacité à être affecté positivement ou négativement par des expériences.
Et tout de suite après viennent d'autres arguments spécistes et surtout critiques de la pensée antispéciste. C'est de dire que les antispécistes pensent et veulent les mêmes droits entre les humains et les animaux.
Oui.
Est-ce que c'est la réalité derrière ces pensées antispécistes ou quelle est vraiment la nature de cette question-là ?
Est-ce que tu pourrais reposer la question ?
C'est en gros les arguments notamment des spécistes, c'est de dire que les antispécistes veulent les mêmes droits entre les humains et les animaux.
Ah oui.
Donc c'est plus ou moins vrai
Oui, alors c'est vraiment pas une
plus
question. Alors il y a plusieurs manières de. Oui. Il y a plusieurs manières de concevoir l'animalisme. Alors il y a des gens qui se concentrent sur la question des droits politiques, juridiques, etc. C'est par exemple Tom Regan, si ça vous intéresse d'aller regarder son travail, qui est un peu à l'origine de cette théorie des droits des animaux. Mais là, il y a dans cet argument, on pense souvent qu'il s'agirait de donner aux poules le droit de vote, par exemple. C'est pas du tout la question. En fait, les antispécistes pensons que les intérêts des individus sont à prendre en compte, mais selon leurs propres conditions. C'est-à-dire que les poules n'ont aucun intérêt à voter. Par contre, elles ont tout intérêt à ne pas vivre enfermées dans une toute petite cage de la taille d'une feuille A4, par exemple. C'est un peu la même chose, en fait. Ça n'aurait aucun sens d'accorder aux hommes le droit d'avorter, puisqu'ils n'ont pas du tout la possibilité d'avorter. Ils n'ont aucun intérêt à avoir le droit d'avorter. Donc, c'est la même chose. On ne va pas donner, aux vaches le droit de... on peut inventer plein de droits différents, mais d'aller à l'école, par exemple, parce qu'elles n'ont aucun intérêt. Par contre, elles ont des intérêts propres à ne pas souffrir, par exemple, à vivre librement, à pouvoir exercer leurs préférences, jouer, etc.
Donc c'est plus, une demande d'avoir les mêmes droits quand... Nous et les animaux ont un intérêt commun, en fait, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et pour revenir un peu sur l'interview qu'on vient d'entendre de Garand de Francis Wolff, il dit notamment que l'espèce humaine ne peut pas être mise un peu au même niveau que les animaux dans le vivant, car on est une espèce un peu à part, et que si on était un peu considéré dans le vivant comme les animaux, on devrait se comporter comme eux. Vous venez d'écouter ces mots, qu'est-ce que vous pensez sur cette phrase-là ?
C'est intéressant comme argument parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un paradoxe entre Donc dans les arguments spécistes, entre l'être humain est supérieur, donc il faut absolument qu'il s'érige en maître de tout le vivant. Et oui, mais finalement, les autres animaux aussi sont spécistes. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas finalement faire comme eux, puisque le spécisme est naturel, une vache préfère les vaches, et moi je suis humain, donc je préfère les humains. En fait, il y a un petit paradoxe, soit l'être humain est vraiment supérieur, et dans ce cas-là, sa supériorité implique des responsabilités, notamment éthiques. C'est justement parce qu'on est capable de faire la différence entre le bien et le mal qu'on a cette possibilité, cette responsabilité envers les autres espèces de ne pas, par exemple, les faire souffrir. Soit on est vraiment au même rang que les autres animaux. Et dans ce cas-là, l'argument de « on peut les exploiter et les utiliser à nos fins » ne tient plus vraiment debout. Donc il faut choisir un peu entre ces deux. Évidemment, les antispécistes ont choisi. C'est-à-dire, oui, effectivement, les hommes, enfin les êtres humains, pour ne pas dire les hommes, sont supérieurs peut-être en termes de moralité, de capacité d'empathie ou peut-être de formuler philosophiquement des champs comme l'éthique. C'est clair et net, on ne remet pas du tout en cause cette idée. Mais du coup, c'est cette responsabilité-là qu'on a. C'est-à-dire que c'est justement parce que nous sommes des êtres capables et doués de sensibilité éthique qu'on a une responsabilité par rapport aux autres espèces et qu'on ne peut pas se comporter simplement comme le font les animaux, par exemple, sauvages. Il y a plein de comportements, par exemple, bon, il y a des animaux qui mangent leur progéniture ou qui violent ou qui s'entretuent entre eux. Ce n'est pas pour autant que les êtres humains, évidemment, devons nous comporter de la même manière.
C'est ça, donc un des problèmes, en fait, du sujet, c'est de hiérarchiser en fait les espèces, et au sein même de l'espèce animale, il y a des disparités qui sont faites, notamment tout simplement entre les animaux domestiques et ceux dits d'élevage. Comment on peut expliquer cette hiérarchie déterminée et en quoi c'est un problème au final dans notre société?
C'est une question très intéressante, parce que justement quand je parlais du spécisme et que je le définissais, donc une discrimination arbitraire fondée sur l'espèce, on entend parfois que c'est l'être humain comme étant supérieur à toutes les autres espèces. Mais comme tu l'as très bien mentionné, le spécisme, c'est aussi favoriser certaines espèces par rapport à d'autres, des espèces animales. Par exemple, caresser le chat et manger le cochon. Ou emmener son chien chez le vétérinaire en courant dès qu'il semble un peu battu, et manger de la vache, par exemple. Donc ça, c'est une manière aussi de comprendre le spécisme qui est très présent dans nos sociétés. Comment ça s'explique? Alors, c'est des critères un petit peu arbitraires, là encore, qui nous permettent de privilégier certaines espèces par rapport à d'autres. Parfois, ça a rapport avec leur apparence physique, par exemple les aigles sont beaux, ou les lions, ou les dauphins, alors que d'autres espèces sont considérées comme moins attrayantes dans leur apparence. Ça peut être aussi des contextes sociaux, culturels. Les chats ont toujours été domestiqués par les êtres humains, les chiens aussi. Ça peut être aussi lié à des croyances religieuses. Mais dans tous les cas, c'est une discrimination qui est complètement arbitraire, parce qu'un chat, un chien, une vache, un cochon, un poulet ou un poisson ont des capacités sentientes similaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent ressentir la douleur de façon similaire, et donc on doit les traiter avec la même considération si on ne veut pas leur faire endurer des souffrances terribles.
Pour aller un peu sur l'actualité, pour ouvrir le débat en fin de discussion, il y a actuellement un barrage contre l'interdiction de la corrida en France, ce qui montre les progrès encore à faire sur ces questions d'antispécisme. Quel regard avez-vous sur cela et comment, selon vous, on peut essayer de faire avancer cette cause-là?
Alors, la question de la corrida est très d'actualité, puisque on a là, le 24 novembre, donc c'est tout pile dans une semaine, c'est jeudi prochain, une loi qui va être votée, qui a été proposée, il me semble, par le député Aymeric Caron, et qui a déjà été signée par 96 députés, et qui donc va passer c'est un essai de faire passer une loi pour l'abolition de la corrida en France. Il faut savoir que la corrida a déjà été abolie dans plein de pays, l'Argentine, le Chili, Mexico, là, tout récemment. Et la France n'a pas encore aboli la corrida, alors même que, selon certains sondages, 80% de la population est déjà bien sensibilisée à la cause et est contre la corrida. On n'a pas besoin d'être antispéciste pour nous rendre compte que s'amuser en tuant un taureau dans une arène n'a rien de justifiable. Et c'est pour ça que de plus en plus de personnes sont sensibilisés à ce problème-là. Donc là, ce qu'on a entre nos mains, c'est une action. On peut essayer, par exemple, de contacter nos députés pour qu'ils votent cette proposition de loi jeudi prochain. On peut envoyer des mails, on peut les contacter sur les réseaux sociaux, parce que plein de députés ne sont même pas au courant, en fait, que cette loi va être votée. Et donc, ne se positionnent pas et se positionneront peut-être au dernier moment, alors que c'est quand même quelque chose qui mérite d'être réfléchi. Et nous, du coup, dans la semaine, la samedi prochain à Rennes et partout en France, il y a une grande manifestation contre la corrida qui à Rennes va avoir lieu à 11h, il me semble, place de la République. Donc si jamais vous êtes intéressé par cette cause, venez nombreux pour montrer qu'on est nombreux en fait à être contre le fait de s'amuser de la souffrance et de la mort d'un animal sur l'arène.
Eh bien, c'est noté, le message est passé. Merci beaucoup, Sarah Zanaz, d'être venue avec nous dans l'émission. On rappelle que la semaine de pensée antispéciste se prolonge jusqu'à samedi. Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook de l'événement.